Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Merci de suivre Okapi Service partout où vous êtes, à RDC, même en dehors de nos frontières. Merci à vous qui nous écoutez sur www.radiookapi.net. Nous parlons aujourd'hui de la santé en prison. Quels sont les droits des détenus malades? On entend souvent les avocats de certains détenus déclarer dans les médias que la santé de leurs clients se dégrade chaque jour et que les autorités refusent de les laisser sortir afin de bénéficier des soins appropriés dans les hôpitaux du pays ou soit à l'étranger. Bien que malades, ces personnes sont avant tout considérés comme des prisonniers et traités en tant que tels. Alors, pour certains, la maladie n'est qu'un alibi. Hein, on trouve un échappatoire, un alibi pour s'évader. Alors, qu'est-ce que dit la loi congolaise par rapport concernant les droits des détenus, des personnes en prison? Maître Ruffin Louko est juriste, chercheur et écrivain en droit. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que la loi congolaise dit à ce sujet?
Voilà, merci encore pour ce thème, parce qu'évidemment, ça consolide la connaissance et la compréhension de nos compatriotes et de tous nos auditeurs en ce qui concerne cette partie difficile de la vie de la liberté nationale, c'est-à-dire la détention. Et lorsque vous êtes privé de votre liberté légalement par la justice, il arrive très souvent qu'on tombe malade.
Et déjà, lorsque vous êtes déjà condamné, soit
vous êtes encore prévenu, ça veut dire que vous êtes encore détenu préventivement, vous n'êtes pas encore jugé. Ce sont les deux situations pour les gens qui vont en prison. Soit.
Mais il semble que ces personnes sont d'abord touchées dans leur psychologie.
Le problème, c'est que nous introduisons en disant que le problème, c'est que déjà l'état de nos prisons, l'état matériel,
les conditions
physiques de nos prisons
ne sont pas bonnes.
Sont telles que déjà les personnes qui souvent, il y a beaucoup qui ne sont pas récidivistes, qui entrent pour la première fois, ces conditions-là ne peuvent pas vous laisser physiquement indifférente en tant que personne. Donc déjà, les conditions seulement. J'ai sillonné la plupart de nos prisons lorsque j'étais conseiller juridique porte-parole du ministre de la Justice. Pendant environ 6 ans, j'ai sillonné la plupart de nos prisons, mais bien avant ça, dans mes recherches, j'ai également fait la même chose. Lorsque vous prenez la prison miroir de notre pays, c'est la prison centrale de Makala, qui était jadis appelée de rééducation. On a fini par dilater ou effacer cette rééducation-là parce qu'elle est devenue encore prison centrale de Makala. Cette rééducation, on la voyait pas.
Donc les conditions de vie.
C'est la prison miroir. Miroir, donc, c'est-à-dire c'est elle qui représente presque toutes les autres. Et la prison de Ndolo, ça concerne la branche prison militaire. Alors, déjà les conditions sont difficiles. C'est pourquoi on avait absolument déployé le début de la réforme pénitentiaire, parce que les conditions doivent changer.
Donc c'est ça qui rend les prisonniers malades.
Donc déjà, dès que vous y arrivez, les conditions qui vous accueillent changent votre situation. Vous mangez difficilement, vous dormez à peine. Je me rappelle dans les années 2000, il y avait des prisonniers de l'époque, les mobutistes, qui avaient réfectionné toute la prison, n'est-ce pas? Ils avaient importé des matériels en ce qui concerne les lits,
les matelas,
et c'était. Mais au fil du temps, toute cette modernisation de la prison centrale, notamment celle-là, s'est détériorée. Ce qui fait que la plupart de nos prisons, les conditions ne sont pas bonnes. Alors, lorsque les prisonniers entrent, immédiatement, les conditions qui changent, et rapidement, c'est la grippe, c'est la malaria, c'est la...
Personne est affectée psychologiquement.
Et la loi, qu'est dit la loi? Mais au moins, avant qu'on arrive à lire la loi, c'est cette ambiance-là qui fait que souvent... L'environnement on tombe malade. Alors...
Maintenant,
les familles sont obligées, pour celles qui ont de famille, sont obligées de venir et accompagner leurs familiers qui sont détenus. Ce qui fait que la famille amène le moustiquaire, des fois le matelas, des fois même la natte, et tout court, la natte. Comme on appelle ça ici, et tout court. Alors, et toutes sortes de les couvertir parce que on en distribue plus. À l'époque, donc, à l'époque, toujours dans nos prisons, ici, lorsque vous entriez, vous avez votre couverture, votre natte et tout ça. Mais ce n'est plus possible parce que la surpopulation est telle qu'il n'y a plus de place aux gens ou aux détenus de dormir.
Alors, si le malade, le prisonnier tombe malade, alors, qu'est-ce que la loi a prévu?
Alors, maintenant, c'est le sujet du jour. Nous sommes dans le régime pénitentiaire. La loi s'appelle régime pénitentiaire, ou la loi portant régime pénitentiaire en RDC. Alors, que dit cette loi par rapport aux conditions? Alors, je devais donc, dans l'introduction, dire que la loi prévoit, le code de procédure pénale congolais, que c'est lui qui exécute les peines et qui gère les prisonniers, en ce qui concerne leur détention et consort, c'est le parquet de la République. Ça veut dire le parquet des grandes instances, avec son chef, le parquet général. Ce sont eux qui gèrent les prisons. Mais l'administrateur de la prison, en tant qu'administratif, c'est lui qui est chargé au quotidien de s'occuper des prisonniers.
C'est le directeur.
Le directeur, que nous avions dit ici, la loi l'a peur, le gardien des prisonniers. Le gardien, c'est lui le directeur de la prison, celui qui est chargé de surveiller au quotidien la vie des prisonniers. Mais celui-là a un pouvoir énorme. Il a un pouvoir. Alors, voyons l'ensemble du déploiement légal ou législatif en ce qui concerne le régime pénitentiaire des détenus qui sont tombés malades. Alors, l'article 59 dit ceci. Les détenus, d'abord, je vais commencer par l'article 57, les médecins traitants des prisonniers est tenu de se rendre à la prison chaque fois qu'il y est demandé d'urgence. Il est tenu de se rendre à la prison, ça c'est l'article 57. Chaque fois qu'il y a une urgence, le médecin de la prison doit venir immédiatement.
Donc chaque prison doit avoir un médecin.
Ça c'est la loi. C'est bien prévu par la loi ici. Le ministre de la Santé désigne, et vous verrez que dans toute une prison, il y a des médecins.
Qui sont affectés là-bas.
Qui sont en permanence. Ici, il y a les grandes prisons, il y a deux ou trois médecins. Et un chef parmi ces médecins et des infirmiers. Donc chaque privé en a. Mais il faut voir les conditions de ces dispensaires de prison, parce que déjà si les hôpitaux généraux n'ont pas assez de matériel, n'ont pas assez
donc
de médicaments,
les prisons dispensaires sont dans des conditions.
Alors c'est difficile. Non, moi
déplorable.
J'ai l'avantage d'avoir été moi-même passé par là dans les années 90. Passé, ça veut dire j'ai fait quelques mois là-bas.
Les années plus, 90.
Donc en plus du fait que je suis avocat conseiller dénombré, je connais, n'est-ce pas, comment ça se passe là-bas. Donc les conditions médicales sont également
donc
difficiles.
La première chose, il faut qu'il y ait un médecin vient là, en urgence.
Et qui, en toute urgence ou en chaque fois que l'urgence le requiert, on l'appelle, il doit être là.
Ok.
À l'époque, déjà, les médecins passaient leur nuit là-bas. Il y avait aussi des médecins de garde, parce qu'il y a des dispensaires. Alors, l'article 59 dit ceci. Et je vais lire rapidement avant d'expliquer. Les détenus sont soignés au dispensaire ou à l'infirmerie de la prison, de la maison d'arrêt et annexée ou du cas de détention. C'est là qu'ils sont soignés. Donc, la loi prévoit que les détenus ou les condamnés sont soignés et en prison. Dans le dispensaire prévu, n'est-ce pas, pour la prison. Un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints, donc un quartier spécial destiné à recevoir les détenus atteints de maladies contagieuses sera aménagé dans les prisons, maisons d'arrêt et annexées et cas de détention. Si le médecin estime, voici cette phrase-là, si le médecin estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est impossible de soigner les détenus, n'est-ce pas? Dans la prison, le cas de détention de la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la formation médicale ou hospitalière la plus proche. La formation médicale ou hospitalière, les détenus, n'est-ce pas? À la formation médicale ou hospitalière, les détenus est placé dans une chambre séparée. Sa garde est assurée par la police locale. Si le malade ainsi transféré est imprévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert sur le champ, l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent chargé de la direction de la section d'inspection des établissements pénitentiaires. Alors, que dit donc la loi en ces dispositions que nous venons de lire? C'est que il y a des situations lorsque le détenu est en détention préventive. Ça veut dire, pendant les enquêtes, il n'est pas encore jugé, eh bien, le procureur, le magistrat, qui instruit ces dossiers-là, doit être informé immédiatement. que la personne vit sa santé, nous sommes obligés de le transférer.
Dans une formation médicale,
dans une formation
la
médicale
plus
voisine la plus proche,
oui.
Pour le prendre en charge d'une manière spécifique.
Mmh.
Et le médecin, malheureusement aujourd'hui, ça devient plus ou moins systématique, c'est le procureur qui donne son avis favorable. Donc, s'il n'y a pas avis favorable, la loi ne le prévoit pas. Donc c'est l'administration pénitentiaire qui décide, et surtout en particulier lorsque les personnes sont déjà condamnées. Lorsque les personnes sont déjà condamnées, ça veut dire ils sont gérés directement par les gardiens des prisons. Lorsqu'il estime avec le médecin traitant de l'hôpital que la personne est dans, et la plupart des non détenus qui meurent, c'est uniquement pour négligence, n'est-ce pas, de leur état de santé. Ils sont nombreux qui meurent. Nous avons vu des détenus qui ont piqué des AVC dans la prison. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été pris en charge. Et c'est ça la difficulté. On ne sait pas à quel moment il faut libérer la personne. Souvent, c'est à la dernière minute. Et c'est pour la laisser mourir.
On entend souvent dans les médias les avocats de certains détenus politiques, surtout, qui disent non, mon client, son état de santé se dégrade au jour le jour. Et on nous refuse l'autorisation.
Bon, la situation, il faut l'étudier. Et c'est ce que nous faisons ici, de bout en bout de la chaîne. Lorsque on libère on autorise le transfert du malade, du dispensaire ou de sa cellule à une autre formation médicale plus spécialisée en dehors de la prison.
Mm-hmm.
La loi prévoit que c'est la police locale qui est chargée, n'est-ce pas, de le garder. Parce qu'il est toujours un détenu.
Mm-hmm.
Et donc, tout en étant malade, il doit être gardé. Ça, ce n'est pas que parce qu'il a quitté l'hôpital, il a recouvert sa liberté. Non, il est toujours détenu. Alors, la pratique depuis plus de 10-20 ans fait que souvent, la plupart des quoi, ceux qui ont l'argent, se sont volatilisés avec le policier chargé de les garder.
Mmh.
La plupart des fois. Donc, et les détenus partis soit en disant se soigner, et les policiers qui étaient chargés de les garder s'y sont volatilisés. Donc, il y a eu évasion à la suite, n'est-ce pas, des transferts. Ça, c'est un constat.
C'est des cas qui sont déjà
arrivés. Qui arrivent le plus souvent.
Et les prisonniers et les malades, tous disparus.
Donc, et les prisonniers malades, et sa garde, ça veut dire la police qui est chargée de les garder, se volatilise. Donc, parce que la situation est aggrave, ou la peine qu'il encourt, l'infraction qu'il a commise est aggrave, non, la personne se volatilise, donc t'as dit, en profite pour s'évader, parce que l'hôpital où il est parti, ça peut être l'hôpital général, ça peut être le Ngaliema,
ça peut être en Inde, en Afrique du Sud, en dehors du pays,
c'est très compliqué. Je ne me rappelle pas de la jurisprudence nationale des détenus politiques ou des droits communs qui aient été transférés à l'étranger.
Mais si on juge que le cas est grave, la situation est grave et que cela nécessite une évacuation.
Absolument, ça doit être fait. Mais la difficulté, c'est que le pouvoir de notre police, le pouvoir de notre justice, ça reste sur le territoire national. En dehors de notre territoire, c'est la coopération. Ce qui fait que la personne qui est ainsi transférée à l'étranger, la possibilité pour le revoir revenir, continuer, purger sa peine là où il est tombé malade,
oui,
devient hypothétique. Totalement hypothétique.
Mmh.
Donc, ce qui fait que les cas, nous n'en connaissons pas un ou deux ou trois, quatre. Vous voyez? Donc, ce qui fait que souvent, les transferts au pays s'arrêtent dès la prison à un hôpital qu'on estime spécialisé, ça peut être une clinique universitaire de la République, de l'université Lubumbashi, Kisangani, Kinshasa, ou l'hôpital spécialisé de la ville, uniquement. Donc, nous n'avons pas eu assez, n'est-ce pas, de cas où on a transféré à l'étranger. Alors, ce qui fait que la santé, comme on dit, c'est la chose principale, la plus essentielle. Il faut apprécier. Et là, moi, en ce qui me concerne, je suis en train de terminer un ouvrage sur les droits de la responsabilité.
Mmh.
Et j'ai considéré que ça, dans cet ouvrage-là, il faut souligner la responsabilité du magistrat. Parce que nous voyons, dans la plupart des cas, les magistrats traînaient à instruire le dossier uniquement parce qu'ils sont dans autre chose. Ils sont totalement dans autre chose.
Mmh.
Et les cas fait 6 mois. 12 mois.
Les gens qui sont en prison,
ils s'en foutent totalement. Ils s'en foutent
sans être entendus.
Et comme chez nous, la question des délais, c'est une question plus ou moins relative. Chacun y va comme il veut.
Mmh.
Les délais de liberté, délais de détention, délais d'instruction d'un dossier. personne ne respecte ça.
C'est pourquoi vous voyez, on détient les gens à volo, comme on veut. Et ça prend autant de mois, autant de semaines.
Mais la personne est affectée psychologiquement et puis sa santé.
On devait entendre un témoin pour qu'on termine l'instruction. Le témoin n'est pas disponible, on n'en tire aucune conséquence. Et ça passe, ça passe, ça passe. C'est cette question-là. Il faut qu'on réforme notre justice. Ça a un grand problème principal. Le non-respect des délais, le non-respect des timings. Et il faut une loi plus robuste pour obliger d'abord le magistrat à être vigilant en engageant sa responsabilité personnelle. Magistrat du parquet, magistrat juge et consort, pour que dans ce genre de choses, on respecte. Vous savez que sur ces questions-là, tant que le magistrat n'est pas, lui, condamné, sa responsabilité engagée, la liberté déjà, et de la part des policiers, et de la part de la justice, sera toujours à caution, parce que tout simplement, la responsabilité des uns et des autres qui sont chargés de la chose n'est pas engagée chaque fois qu'ils ont commis une faute.
Santé en prison, quels sont les droits des détenus malades? Maître Ruffin Louko, juriste et chercheur écrivain en droit, est notre invité. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Bien, nous poursuivons cette émission. Nous avons ici la réaction de Gustave Mukendi de Kananga. Il dit bien sûr qu'un prisonnier a un droit à un bon traitement, mais ce n'est pas le cas ici à Kananga où les prisonniers bénéficient que des paracétamol. Et je n'ai jamais vu une prise en charge ici d'un prisonnier, soit de la tuberculose, la fièvre typhoïde ou autre maladie. Aucun autre gouvernement s'intéresse à cela, surtout ici chez nous à Kananga. On entend souvent à Kananga ou à Mujima, il y a des épidémies, le cas de la tuberculose qui affecte plusieurs prisonniers. Et d'après lui, il n'y a pas une bonne prise en charge. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à cela?
Non, Dali, la prise en charge est dans nos prisons.
On donne que des paracétamol.
Même à une personne
qui a la tuberculose, on lui donne que des paracétamol.
Voilà, mais il a la fièvre, il a la malaria, le pali.
On donne le paracétamol.
Il a des maux des jambes, paracétamol. Il a les maux des yeux, paracétamol. Il a les maux des dents, la carie dentaire, aspirine. Vous voyez? C'est un peu caricatural, mais hélas, c'est la situation de la plupart de nos prisons. On avait, par exemple, parmi les récentes prisons qu'on a construites, c'est la prison du cinquantenaire au Bandundu et la prison de les noms m'échappent à Beni, Kanga, je crois. À Beni, c'est parmi les prisons qu'on a construites avec la coopération. Et ces prisons-là, on a voulu, n'est-ce pas, rapidement, changer les conditions. Un dispensaire plus ou moins moderne, et une restauration plus ou moins équipée, et dont les conditions seraient plus ou moins compétitives par rapport aux autres prisons.
Mais apparemment, la loi n'a pas parlé des cas d'épidémie ou soit...
Non, c'est prévu. La loi prévoit en ce qui concerne la prévention des épidémies. Mais... En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, la situation est pareille. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une épidémie, le ministère de la Santé intervient comme pour les prisonniers, comme pour les personnes libres. Le ministère de la Santé avec tous les déploiements, les dispositifs que nous avons à chaque fois qu'il y a épidémie est également déployé en ce qui concerne les détenus. En parlant du cas de Kananga et de Mujima, on sait que déjà là, les CD provinces qui sont aujourd'hui éclatées, avait le prison le plus lamentable de la République, le plus vétusté plus ou moins total, qui ont été réaménagés il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, et qui donc plus ou moins de la même manière que les colons les a laissés, se sont détériorés jusqu'à arriver au niveau où ça se
trouve facilement des épidémies, les maladies.
Ajouter Mbandaka et Consort, où on disait que les détenus ils restaient quand ils veulent, ils allaient la journée d'aller le chat et le soir revenir et donc ils veillaient. Donc ce sont des prisonniers dociles. Alors, lorsque les maladies arrivent, cette histoire de paracétamol, c'est parce que tout simplement la prise en charge est limitée, très limitée. Donc déjà, ces prises en charge, vous verrez que c'est même peut-être le médecin ou bien le gardien de la prison, ou bien c'est la coopération de CICR qui a donné ces produits-là. Donc, il faut que sur ce chapitre-là,
qu'on soit le plus regardable possible. Parce que l'image, je me rappelle lorsqu'on a arrêté Jamil Mukulu en Tanzanie, nous avions perdu de les juger ici parce que au Congo, nous avions l'avantage par rapport à l'Ouganda, c'est que Jamil était déjà condamné dans le procès de Mamadou Ndala à Beni. Là-bas, il était condamné à la peine capitale. Et donc, chez nous, nous étions en avance, nous étions favoris parce qu'il y avait déjà un jugement contre lui ici, de la cour militaire opérationnelle à l'est du pays, pour qu'il vienne diriger sa peine ici. Et le seul argument qu'il nous a opposé, c'est l'état lamentable de nos pénitenciers. Jamil Mukulu était milliardaire en termes millionnaires, en termes de trafic illégaux et consorts. Il avait l'argent. Et s'il devait venir être arrêté chez nous, facilement, il aurait dû donner l'argent et disparaître. Donc, le fait que nos prisons se retrouvent dans cet état, cette image-là, lamentable de nos pénitenciers, nous met dans une situation telle que nos revendications sur le plan international sont moindres. C'est pourquoi voilà, la réforme est absolument indispensable.
Edouard, vous êtes à Bounia, Nassor, nous appelle des Kindou et Jérôme de Kalemie. Edouard, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Edouard?
Bon, j'ai trois petites préoccupations qui méritent d'être faites. La première, est-ce que la loi prévoit un condamné qui est mort qui continue sa détention à la cimetière? Parce que à l'époque, j'ai vu une cimetière qui était attachée avec la chaîne. Alors, je voulais savoir si la détention peut aller jusqu'à la cimetière. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, il y a ceci. Quand un détenu va aller au soin, alors après qu'il puisse s'évader, qui sera responsable? Ça, c'est la deuxième préoccupation. Troisième préoccupation, quand il y a une épidémie qui éclate à la prison, est-ce que dans ce cas-là, on peut libérer tous les prisonniers? Merci à vous, je vous remercie.
Bien. Nassor de Kindou, bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs de la radio Capu, qui sont à ce moment précis.
Quelle est votre question, Nassor?
J'ai bien vu l'invité, il a dit qu'un détenu a droit aux soins médicaux. Maintenant, quand un détenu trouve la mort dans une prison, à cause de ne pas lui donner l'accès de suivre un soin médical. Que prévoit la loi par rapport à ça? Est-ce que la famille doit réclamer ou bien la famille n'a pas droit à réclamer? Parce qu'actuellement, on constate qu'il y a maintenant des décès dans des prisons à cause de bloquer les malades dans les prisons. Maintenant, que prévoit la loi par rapport à ça? Est-ce que la famille a droit à réclamer? C'est ça vraiment ma préoccupation par rapport à cette thématique. Je suis une assure de Boutingou. Je
bien. Vous remercie. Jérôme, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question, Jérôme?
Oui, ma question est presque comme celle de Kim. Je voudrais savoir, si un détenu est malade et la famille de la détenue lui demande pour aller avec lui dans un hôpital, mais les gens de prison refusent. Si la personne vient de trouver la mort, maintenant, la famille de la détenue va porter plainte contre qui?
D'accord, merci. Jean, maître, vous avez la parole.
Alors, commencer par cette dernière. Bon, si la personne est détenue,
elle trouve la mort.
Voici la suite de la phrase. Si la personne est détenue, c'est que la justice considère qu'il y a des indices contre lui. Alors, faites la différence entre les détenus préventifs, celui qui n'est pas encore jugé, et celui qui est condamné. Parce que la personne, si elle est condamnée, c'est qu'il n'est pas en prison par injustice. Sous réserve qu'il peut y avoir erreur judiciaire et consort, mais au moins, il y a une condamnation qui le purge. Donc, il est là par levé de la loi, ça veut dire qu'il a commis telle ou autre faute ou infraction, et qu'il ait été condamné et il est en prison. Alors, dans tous les deux cas, lorsque sa santé vient à se détériorer et qu'il faut, n'est-ce pas, le soigner, et qu'il est établi, parce que la première personne, la première autorité à établir la situation grave de sa santé s'appelle le médecin de la prison. Et souvent, les médecins de la prison les constatent toujours. Vous verrez en prison tous les détenus détenir une autorisation d'aller se faire soigner. Alors, le fait que les prisons sont moins dotés à moyens pour faire garder tous ces détenus dans les différents hôpitaux pour lesquels on va les envoyer ou vers lesquels on va les envoyer, eh bien, l'administration de la prison hésite à envoyer tous
à la fois parce qu'ils sont nombreux qui sont malades là-bas.
Parce qu'on ne sait pas qui va fuir et qui va revenir.
Fuir parce qu'on n'a pas assez de moyens pour assurer, n'est-ce pas, assurer, parce qu'il y a même des détenus qui sont envoyés et c'est le détenu qui est chargé de payer celui qui le garde. Vous voyez, les policiers.
Et d'ailleurs, les soins, c'est aux frais de qui? Qui prend en charge les soins?
Ça, c'est rien à faire, c'est aux frais de la famille de la personne. Déjà.
Parce que la loi le dit ainsi.
En principe, ça doit être aux frais de la prison, de l'administration, donc du trésor. Si c'était fonctionnel, vous savez le système, vous venez dans un jeton. Et jeton, ça veut dire la facture que vous allez payer là-bas, parce que vous êtes fonctionnaire, vous êtes militaire, vous êtes agent de l'État, tout ceci, cela. Vous allez, il y a une réduction d'environ autant de pourcentage de la facture à payer, mais vous devez la payer. Vous voyez? Et celui qui la paye, dans la pratique, c'est la famille dit détenue, c'est-à-dire de la personne malade. Ce qui fait donc que lorsque cette personne n'a pas été transférée, que finalement, mort venait à se produire, il y a une responsabilité. Et
qui en sera responsable?
C'est l'État congolais. Et donc, s'il faut vous plaindre, c'est se plaindre contre l'État, comme le disent les musiciens, Batikayo Bundana l'État. Donc, ça veut dire, il faut déposer plainte contre la République. N'est-ce pas?
C'est pas contre les directeurs de la,
non,
la prison.
Non, mais le directeur de la prison
n'a pas autorisé.
A comme titère, c'est la République. C'est un agent de l'État. La négligence, ou ceci, cela, a été commise dans l'exercice de ses fonctions. Donc, en définitive, celui qui doit payer, c'est la République. C'est-à-dire, si on condamne les directeurs, si on condamne les médecins de l'hôpital, ou le magistrat qui n'a pas autorisé que la personne puisse être soignée à temps, c'est la République qui doit payer. On appelle ça les civilement responsables. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a engagé à faire ce travail-là. Et lorsqu'il commet une faute, la personne qui l'impose, c'est celle-là qui l'a engagé, la personne civilement responsable. Donc, la responsabilité engagée ici, c'est celui ou celle de la République qui est la personne civilement responsable. Ça, c'est la question de Jérôme de Calédie.
Un instant, on va accueillir d'abord Joël Bongol de Kinshasa et puis nous allons revenir à vous tout à l'heure. Joël, bonjour et quelle est votre question?
Oui, ma question c'est celle de savoir lorsque les refus de transférer un détenu dans un centre de santé n'est pas justifié comme le cas de Mouyambo et Coutinho Fernando. Et que son état de santé s'aggrave, comme on l'a vu là, qui engage sa responsabilité, et quelle action dispose la famille de ce détenu là?
Bien, merci Joël, maître Ruffin.
Voilà, donc, bon, on était en train d'y répondre. Joël, lorsque la responsabilité, non, le refus des transferments n'est pas justifié. Alors, d'abord, notre droit ne prévoit pas, comme dans les chancelleries, où il est prévu que lorsque le refus du visa est proclamé, vous devez justifier le refus. Vous devez donner la motivation. Et vous verrez que lorsqu'on vous refuse le visa dans tel ou tel ambassade, on vous donne une note qui vous donne le motif du refus. Chez nous, notre droit de la responsabilité ne prévoit pas le magistrat justifier son refus. C'est tout simplement refus sans motif. Que ce soit le médecin de la prison, le médecin pénitentiaire. Bon, dans la pratique, le médecin pénitentiaire, toujours prudent, lui accorde toujours.
Parce qu'il fait un document.
Dans la pratique, le médecin de la prison.
Pour que sa responsabilité ne soit pas engagée.
Bon, pas seulement pour que sa responsabilité ne soit pas engagée, mais par honnêteté, il constate que les conditions qu'il a, et c'est un médecin, il a prêté seulement d'Hippocrate, souvent, et accorde toujours. Constate que la personne est malade, cette personne, je ne saurais pas les soigner ici, vu l'état lacunaire de moyens et des dispositifs qui soient à m'apporter ici, je ne saurais pas soigner la personne. Et signe toujours. Alors, ce qui fait que, pour ceux qui ont refusé sans motif, la responsabilité personnelle est engagée et, bon, il faut apprendre, nous encourageons dans la
finance. Il dit quelle action, quelles sont les actions que la famille...
L'action, c'est au parquet. L'action, c'est au parquet. C'est vrai, nous avons la difficulté chez nous de l'absence, comme on l'a dit la fois passée, des médecins légistes, parce que souvent, la seule personne qui est chargée de constater la négligence de ceci-là s'appelle le médecin légiste. Et comme sur l'Italie de la capitale, 12 millions d'habitants, nous n'avons qu'un seul médecin légiste. Voyez-vous ce que ça fait? 12 millions d'habitants, alors qu'on devrait avoir minimum 100 médecins légistes à Kinshasa seulement. Donc c'est ça le drame qui fait que la justice, en ce qui concerne les erreurs médicales, les insuffisances, les dégâts qui se font dans les hôpitaux, de toutes sortes, il y a moins de procès parce que tout simplement, avant le procès, il faut les constats des médecins légistes et il n'y a qu'un seul. Et vous voyez l'énorme responsabilité et charge qui incombe à ces seules personnes pour 12 millions d'habitants.
Alors, Edouard nous dit, en un instant, on va accueillir Charles avant de donner la parole, avant de répondre à la question d'Edouard. Nous parlons de la santé en prison. Quels sont les droits des détenus malades? Bien, santé en prison, quels sont les droits des détenus? Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Daniel, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Quelle est votre question?
Oui, d'ailleurs, je suis très content du sujet du jour parce que ça constitue même mon fait que je suis en train de travailler.
Oui.
Maintenant, par rapport au sujet, j'ai deux petites préoccupations. La première est la suivante. Quelle est la proposition de notre invité, qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour que les prisonniers de notre pays arrivent à vivre dans le respect de leurs droits? Ça, c'est la première proposition. Et la suivante, j'ai constaté que c'est surtout en Afrique francophone où des violations graves sont à signaler vraiment aujourd'hui. Mais par contre, en Afrique anglophone, il y a quand même une certaine dignité. Maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que le gouvernement de notre pays n'arrive pas à imiter la politique comparée?
D'accord. Merci Charles de Lubumbashi. Maître, revenons d'abord à la question d'Edouard qui dit, lorsqu'une épidémie éclate dans une prison, est-ce qu'on doit libérer tout le monde ou pas?
Bon, en fait, ça... La seule personne qui a pouvoir d'ordonner la libération de tout le monde, c'est le procureur général. Il faut donc que le ministère de la Santé demande au parquet général. Hein, parce qu'il peut y avoir, ça peut être par exemple Ebola, comme Ebola fait des ravages en Afrique de l'Ouest là-bas, et qu'il y a une nécessité, parce que si on les laisse tous en détention, ils vont tous périr. La nécessité peut imposer qu'on libère tout le monde. Mais la prison, c'est pas une église, hein. C'est pas une église ou une salle de classe. On dit que non. Là, il plaît libérer les enfants à rentrer à la maison. Non. Les gens ont été condamnés. Et par principe, les gens condamnés sont déjà dangereux. Ce sont des personnes dangereuses d'une manière ou d'une autre et qu'on ne peut pas tous les libérer comme ça. Mais une nécessité peut faire que pour des raisons de santé publique de l'ensemble de la collectivité, il faut qu'on libère cela pour que, n'est-ce pas,
en cas d'épidémie, il faut peut-être les mettre en quarantaine.
Nous n'avons pas encore connu la possibilité de libérer tout le monde à la fois. Vous voyez? Parce que les détenus, rassurez-vous, lorsqu'ils reviennent dans la population, il y a des violeurs là-dedans, il y a des criminels, des kounounas, il y a des bandits armés, et doivent, généralement, les dangereux, lorsqu'ils reviennent à la liberté, c'est reprendre de la manière la plus accrue ce qu'ils faisaient au départ. Donc, les cas n'est pas encore arrivé, mais souvent c'est pas le principe qu'il y a épidémie, il faut libérer tout le monde, et que cela ne peut être possible qu'avec l'autorisation du procureur général, du procureur général du ressort et du ministre de la justice. C'est tellement lourd que considérer que ça ne se passe pas, du gaieté de cœur, que non, il y a une épidémie, on doit libérer tout le monde.
On retient que notre loi prévoit que si le détenu est malade et que le cas nécessite un transfert,
On doit le lui accorder. Mais la pratique fait que la vétusté des moyens, l'absence de moyens importants à la disposition des prisons fait que les gardiens des prisons n'ont pas de moyens pour assurer la sécurité de la personne. Parce que pour eux, c'est que non seulement c'est la santé qui prime, mais aussi ont l'obligation d'assurer la sécurité de la personne pour que après les soins, ils reviennent en prison. Il a été envoyé en prison par la justice. On doit savoir quelle est la suite et fin de cet envoi-là par rapport aux violations qu'il a faites, qu'il est présumé avoir
et
fait.
Et vous avez dit, si la personne décède en prison, la famille porte plainte contre
la famille. S'il y a une négligence manifeste, la famille a le droit de porter plainte. Et pour mieux porter plainte, il faut chercher un avocat, un défenseur, pour, n'est-ce pas, vous orienter, vous n'allez pas le faire seul. Ce qu'il faut, bon, dans l'État, il faut le faire accompagné par un avocat, un défenseur, une ONG, pour vous aider.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des cas, des personnes qui ont porté plainte contre l'État et qui ont eu gain des causes?
Ils sont nombreux. Les avocats qui ont, n'est-ce pas, initié des procédures contre l'État, et c'est pourquoi on dit que l'État ne paye pas. L'État ne paye pas parce qu'il y a eu des gens qui ont obtenu des condamnations contre l'État. Et l'État, on les condamne. Nos magistrats ici condamnent l'État chaque jour. Nos magistrats, croyez-moi, condamnent l'État chaque jour. La responsabilité de l'État est engagée chaque jour. La jurisprudence est abondante là-dessus. Dans toutes nos provinces, cours militaires, tribunaux militaires, cours d'appel, tribunaux de grande instance, tribunaux de paix, toute notre justice, même la Cour suprême, condamne l'État chaque jour. Mais l'État, la potrée dire, paye difficilement. L'État paye difficilement. Parce que si, déjà vous verrez des provinces qui sont condamnées, les provinces, l'État dans les provinces, a des montants plus que les budgets de la province. Donc vous demandez, l'État va payer comment? Si vous calculez la dette publique de l'État uniquement liée aux condamnations des tribunaux, c'est au-delà du budget national. Donc c'est ça la réalité, au-delà du budget national. Donc les agents de l'État commettent des fautes et des erreurs continuellement, et la justice constate ça, les condamne avec leur suffisamment responsable qui est l'État. C'est pourquoi, si la population n'a pas compris ça, c'est pourquoi on a réclamé depuis longtemps qu'on mette ce qu'on appelle les tribunaux administratifs. Ces tribunaux-là ont comme compétence de censurer chaque fois les actes des agents de l'État.
Voilà, on va
pour dégager davantage la responsabilité. On n'a pas terminé avec Edouard, oui. On va y revenir.
Hubert de Kindou, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Capi, c'est Hubert Kawaya, je vous appelle depuis la ville de Kindou.
Quelle est votre question?
Oui, vous savez, monsieur Jody, moi j'ai un frère qui se trouve dans la prison. Et quand je pars à chaque fois lui donner quelque chose à manger, vous savez, la santé a aussi impact à la nourriture. Mais de la manière que vous allez voir, on prépare un peu la nourriture dans des prisons, c'est d'une manière très désordonnée. Mais à chaque fois quand on donne la nourriture, on demande l'argent. Il faut qu'on donne aussi l'argent pour que la nourriture passe. Je demanderai maintenant à l'invité, est-ce que le paiement avant d'entrer la nourriture dans une prison est dans l'État?
Voilà, merci Maître Jean.
Bon, ça
c'est un autre sujet.
Bon, non, on va lui répondre. Oui. Ça veut dire, ça concerne la difficulté pour nos surveillants des prisons, n'est-ce pas, de nouer les deux bouts de moi, et ils se livrent
à certaines pratiques.
À certaines pratiques, de demander la paix recommandable d'antivalère et tout ça, de demander l'argent même pour la nourriture. Ça, c'est interdit. Ces pratiques-là, monsieur de Kindou, monsieur Hubert, sont totalement interdites. Hélas, ces pratiques-là se voient nos prisons. Il faut donc les combattre, nous tous, vous et nous, pour que cessent. Et nous devons insister, lorsque vous nous entendez parler ici, c'est pour réveiller tout le monde. Ces réalités peut-être ne sont pas connues par certaines autorités qui doivent être au courant que si l'on ne paye pas ces gens-là, si leur salaire n'arrive pas, si leurs émoluments n'arrivent pas, leurs primes n'arrivent pas, cette mendicité-là que vous constatez là, dans certaines de nos prisons, va continuer. Et on va continuer à demander l'argent. Et vous le voyez, c'est dans beaucoup de coins. Et ça sera arrêté par la lutte et le paiement régulier et conséquent de ces personnes-là qui rendent d'énormes services à la nation. Alors, si on doit revenir pour terminer, n'est-ce pas, à Edouard, avec... Edouard a posé une question que la population se pose très souvent. La question de savoir si, selon lui, la vie dans des cimetières, des chaînes, est-ce qu'on garde les statuts de prisonniers même après la mort? Bon, ces pratiques-là avaient existé, lorsque nous lisons dans l'histoire de la justice, ces pratiques-là avaient existé à une très vieille époque. En tout cas, je vous informe, même ce n'était pas à l'époque de la colonisation. C'est bien avant. Les nations occidentales avaient déjà vécu ça et avaient déjà aboli la pratique. Ça veut dire, et cette pratique-là remonte de la justice romaine, qui considérait que lorsque vous avez été condamné, vous êtes mécréant, vous n'irez pas au ciel, même ta tombe doit être enchaînée. Même ta tombe doit être enchaînée. Vous êtes donc banni de la justice et il y avait donc une peine que le juge devait prononcer qui ordonner que même ta tombe, on va t'exécuter, et même ta tombe soit également enchaînée pour que vous n'en sortiez pas, même la nuit, parce que tout simplement, vous n'avez plus droit à revenir. Et c'est ce qui expliquait les RIP, là, repose en paix, et que les gens disaient que c'était retour interdit au pays. Au pays pour dire tout simplement que non, vous partez définitivement. Quelle que soit votre volonté de nuire, vous n'avez plus la possibilité de revenir vers les îles.
Oui, donc, cette pratique n'existe plus.
Donc, monsieur, vous ne verrez plus dans un cimetière actuel, même ce que nous avons...
Une tombe enchaînée.
C'est du mysticisme, ça n'a rien à voir avec la justice.
Alors, on retient que les détenus qui est malade, la loi a prévu que lorsque le médecin de la prison constate que sa situation s'aggrave, l'autorise à aller suivre les soins ailleurs. Et que notre justice, n'ayant pas les moyens de continuer à assurer la sécurité de la personne, n'autorise pas, hésite.
Alors, dans ce cas,
on devait améliorer notre loi pour prévoir d'autres dispositions.
La loi, c'est ce que nous disons chaque fois. Nos lois sont celles-ci. Celles dont on a lu aujourd'hui est de 65. Donc, 5 ans après l'indépendance. Et elle n'a pas changé depuis. Donc cette loi ne sait même pas qu'il y a Ebola qui est arrivé. Ebola a commencé notre pays à 67, deux ans après, et Ebola vient de faire des ravages à la prison de l'Ouest. Et on sait que si une épidémie d'Ebola entre en prison, tout le monde va périr.
C'est fini.
Tout le monde va périr.
Mais la tuberculose est récurrente.
Donc ça veut dire que
la tuberculose
est en train de ravager les gens alors que la tuberculose n'existe presque plus dans d'autres pays ou dans d'autres provinces. Donc ça veut dire que cette loi doit être également modifiée et se conformer aux exigences actuelles. Et cette loi doit impliquer la responsabilité des magistrats, la responsabilité des médecins, du directeur de la prison en cas de négligence et que les personnes meurent parce que ça devient leur paix quotidien de mourir par négligence. Et c'est parce que lorsqu'il y aura la sanction, comme on dit, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. C'est lorsqu'il y aura la sanction et nous militons chaque jour pour que dans notre pays revienne le régime de la sanction pour que les personnes aient peur du policier, aient peur du policier de roulage, aient peur du parquet, aient peur de la justice, aient peur du tribunal.
Voilà.
Et que donc la justice puisse revenir.
Maître Rufin Louko, juriste, chercheur, écrivain en droit, merci et bonne journée.
Je vous en prie.